sur 103,5.
Je vous l'ai dit en début de cette émission, aujourd'hui nous faisons le point sur la santé, car vous savez que à ce stade final de la campagne électorale, il n'y a pas de question plus importante que de connaître la position des candidats sur la question de l'amélioration concrète de l'existence des Congolais. Saviez-vous que plus de 70% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour? Chaque jour, les Congolais doivent déterminer comment ils vont utiliser leurs dollars. Vont-ils acheter de la nourriture, payer des médicaments antimalariques pour leurs enfants malades, utiliser cet argent pour payer la taxe ou encore beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'entre vous vous posez ces questions, surtout en rapport avec la santé, raison pour laquelle je vous invite d'abord à suivre le point que nous fait à ce sujet jeudi Kachara.
Donc, pour un nid, soi-disant, manquement à bâtisse, il n'y a pas de matériel. Donc, vraiment, bah, surtout, hôpital, on a même des bases. Donc, ceux qui, bah, non, bah, bon, qui ça, bah, ça, la nuance, aux autres, c'est ma pour l'hôpital, pour, ils ont été, qu'ils m'ont accueilli, avant, bah, si, bah, ils m'ont, donc, bah, si, bien, ils m'ont tout, après, ils m'ont aussi, donc, ça, bah, continuez, ils sont, ouais, en côté, si, ça, 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 ils m'ont vraiment, peuple, quoi, ils m'ont vraiment, la montée, maman, quoi, qu'on fait, moi, la montée.
Bon, le plus grand problème qu'on a en République démocratique du Congo, c'est le problème social. Donc, moi, je souhaiterais que le président qui sera élu d'ici là, s'occupe en premier lieu du social, c'est-à-dire de l'éducation, de la santé, tout. C'est ça mon souhait. Qu'on commence d'abord par réhabiliter les écoles, les hôpitaux, et qu'on mette à la disposition de parents les moyens nécessaires pour s'occuper de leurs enfants. En premier lieu, qu'on commence vraiment à réhabiliter les hôpitaux, les écoles. Puisque la plupart de nos écoles et de nos hôpitaux sont dans un état tel que si vous êtes malade, vous avez même peur de vous y rendre.
Bon, ce que je souhaite, point de vue santé, qui est une politique de prévention.
Voilà, vous avez suivi les points de vue de la population sur ce sujet. Aujourd'hui, quand on est malade, vraiment, c'est difficile de se faire soigner quand on n'a pas de moyens. Est-ce que la même chose, c'est partout ailleurs que seulement ici au Congo? Je ne sais pas. Vous serez en tout cas les bienvenus en réagissant au 081-070-2050. Je vous l'ai dit également que nous allons faire le point là-dessus avec nos invités. Nous avons déjà dans ce studio Dr. Wibin Mboudoué, qui est président de la commission médicale de la ZADO, Association africaine pour la défense des droits de l'homme. Nous avons ici le Dr. Mankoy Badjoki, qui est secrétaire exécutif provincial du SINAMED, autrement dit le syndicat national des médecins. Ils sont là afin de nous éclairer sur la question cruciale qu'est la santé. Je leur dis bonjour pour commencer.
Bonjour.
En tout cas, merci de vous être déplacé afin de donner plus d'informations à nos auditeurs, toujours en rapport avec la santé. Vous avez suivi les réactions des habitants de la ville de Kinshasa et j'aimerais aussi que tous ceux qui nous suivent à travers le pays, qui n'hésitent pas à réagir. Alors, je vais commencer par Dr. Wibin Mboudoué. Hein. C'est une femme, on va commencer par elle. Elle est présidente de la commission médicale de la ZADO. Docteur, nous retenons une chose après ces réactions, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on doit relever dans le domaine de la santé. Mais j'aimerais d'abord connaître votre point de vue après avoir suivi les réactions. Des auditeurs.
Je vous remercie pour la parole. Je viens ensemble avec vous de suivre la réaction des auditeurs. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que c'est vrai que les droits de l'homme le disent, tout individu a droit à la santé. Mais le droit de la santé est assuré par l'État, par le gouvernement, et non par le personnel médical, comme nous parlons des médecins, et non par les médecins. Donc, aujourd'hui, que peut-être à un certain niveau, le droit à la santé n'est pas totalement assuré à 100%. Condamner le personnel soignant en disant qu'ils ne reçoivent pas les malades et qu'ils ne les soignent pas, qu'ils les laissent mourir dans le couloir, personnellement, je pense que ce serait trop facile. Je crois que chacun doit assumer ses responsabilités et dans ce cas-là, tout le monde pourra être satisfait.
Mais nous savons que la population en général, la population congolaise en général, souffre beaucoup et au moins 500 000 de personnes meurent chaque année en raison des maladies telles que la malaria, les diarrhées, la tuberculose et même le sida. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on n'a pas de moyens, même si vous êtes malade, très malade, on vous abandonne comme si vous n'existiez pas. Hein. Et là, je m'adresse directement au docteur Mankoy Badjoki.
Oui, effectivement, malade. Madame, nous avions suivi ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est l'État qui assure la sécurité sanitaire de sa population. Vous serez peut-être surprise quand je vous dirai que, à l'heure qu'il est, les personnels soignants, quels qu'ils soient, infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire et consorts, pour bien faire son travail, il faut qu'il y ait l'équipement nécessaire. Il faut qu'il y ait le médicament. Or, à ces jours, il nous est très difficile qu'on vous amène quelqu'un, même s'il est en train de convulser, même s'il est en train de faire une fièvre très élevée à 40. Qu'est-ce que le personnel médical va faire? C'est de prescrire.
Mais il faut d'abord commencer par l'assister.
Non, non.
Or, dans bien des cas, qu'est-ce qu'on constate? Quand vous débarquez à l'hôpital, on vous demande d'abord de payer la consultation et peut-être aussi d'acheter la fiche. Si vous n'achetez pas la fiche ou bien que vous ne payez pas la consultation, le médecin ne va même pas s'occuper de vous. Hein?
Non, je ne pense pas que c'est vrai. Vous allez, si vous avez des limiers qui peuvent passer dans les salles d'urgence, ils vont voir combien de malades qu'on reçoit sans qu'ils payent la fiche, sans qu'ils payent la consultation. Combien de malades qu'on reçoit, et parfois le personnel médical ou les gardes malades qui ont amené d'autres malades là, l'assistent en achetant les perfusions, en achetant les médicaments, en entendant. Nous recevons parfois de malades, parce que ça c'est le rôle de la police. Trouve quelqu'un en cours de route, en train de gémir, et on le ramasse, on amène en salle d'urgence. Quand on arrive en salle d'urgence, vous recevez le malade, mais vous n'avez pas le médicament. Si vous partez, vous allez bien voir le malade, chez qui on a donné la fiche et qu'on marque toujours NPC, que la personne n'a pas payé. Et puis nous avons des services que nous avions organisés pour recevoir les indigents. Mais ces services-là doivent être financés par l'État. À l'heure qu'il est, ces services sont financés par des ONG, sont financés par des confessions religieuses. Mmh. C'est un sérieux problème.
C'est un sérieux problème. On va suivre tout à l'heure les points de vue des porte-parole des deux candidats. Président, parce que vous avez dit que normalement, c'est un service qui devait être financé par l'État congolais. Vous aurez donc dans ce studio les points de vue du coordonnateur de l'Union pour la Nation, François Mwamba, qui présente justement le programme de son regroupement politique en matière de la santé. Et que vous aurez aussi le programme de Lambert Mende, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle, qui présente également le programme de son regroupement politique en matière de santé. Mais d'abord, suivons le programme de François Mwamba, autrement dit de l'Union pour la Nation.
Ce que nous voulons, c'est effectivement, du point de vue des infrastructures, remettre notre pays à niveau. Nous rappelons, nous qui avons déjà un certain âge, qu'il n'y a pas bien longtemps, durant la décennie des années 60, les Blancs d'Afrique du Sud, je dis bien les Blancs d'Afrique du Sud, venaient se faire soigner au Congo. Ça veut dire que nous avions là les infrastructures, en fait, y compris les infrastructures sociales au sens de ressources humaines, c'est-à-dire la qualité des médecins et tout ça, etc., qui étaient d'un niveau qui amenait les Blancs d'Afrique du Sud pour venir se soigner chez nous. Ce qui signifie que depuis, nous avons pris du retard, nous avons reculé, et que notre propos aujourd'hui, c'est de dire, remettons au moins notre pays au niveau où il était durant les années 60. Cela est faisable. C'est un problème de volonté politique et de ressources. En ce qui concerne la volonté politique, il n'y a pas de doute que si Jean-Pierre Bemba demain était élu président, ce domaine-là, ce secteur social en général, santé en particulier, sera prioritaire. En ce qui concerne les ressources, nous avons indiqué que dans notre programme que nous allons, un, appliquer le DSRP. Le DSRP, c'est ce programme que nous avons négocié avec la Banque mondiale, qui nécessite sur 3 ans 6 milliards de dollars. Et nous, en tant que parti, en tant que coalition, union, ce que nous disons, c'est que, en plus de ces 6 milliards sur 3 ans, nous allons créer les conditions pour mobiliser des ressources internes additionnelles de l'ordre de 7 milliards sur 5 ans. Et cet argent va massivement, effectivement, être utilisé pour lutter contre la grande pauvreté. Et comme tout le monde le sait, quand on parle de pauvreté, c'est d'abord effectivement la santé. Ce que nous disons aux Congolais, si vous nous faites confiance, si vous faites confiance à Jean-Pierre Bemba, voilà la direction dans laquelle nous allons cheminer, c'est-à-dire transformer ce pays, lui donner des infrastructures, lui donner un nombre quantitativement et qualitativement suffisant de médecins pour que le secteur de la santé puisse devenir au moins ce qu'il était dans les années 60.
Voilà, là, c'était le point de vue de François Amamba, qui a présenté le programme de son regroupement politique en matière de santé, notamment l'Union pour la Nation. Il représentait ainsi Jean-Pierre Bemba. Dans un instant, on va suivre Lambert Mende, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle, qui va aussi présenter leur programme. Mais d'abord, j'aimerais avoir vos points de vue, votre opinion après avoir suivi justement François Amamba. Je commence par le docteur Wivine.
Ok, merci. Je respecte son opinion. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques années, on recevait les médecins et les malades d'Afrique du Sud qui venaient ici.
Ça fait longtemps, ça.
Ça fait très longtemps.
20 ans, 30 ans peut-être.
Oh oui. Mais aujourd'hui, ce sont les médecins d'ici qui vont soigner en Afrique du Sud et qui sont très appréciés. Ça veut dire que sur le plan de la qualité de la formation, il n'y a pas grand-chose à redire. Donc, mais le problème maintenant, c'est sur le plan des infrastructures. Ces malades qui viennent dans nos hôpitaux, on les reçoit dans quel bâtiment? On les reçoit sur quel lit, on leur donne quel médicament. Et là, dans tous ces chiffres qu'il a donnés, ce qu'il n'a pas pu préciser vraiment, c'est la part du budget qu'on réserve à la santé. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours de l'argent. Peut-être moins, mais c'est la part qui est réservée au ministère de la Santé qui n'est pas très importante et qui ne permet pas au ministère de la Santé d'assurer les subsides à ces différentes structures comme elle le faisait avant.
Vous parlez de la part du budget dans le domaine, dans le secteur de la santé, hein? On aimerait avoir une idée. Pour l'instant, actuellement, ça représente combien à peu près? Vous avez une idée?
Je crois que Dr Mankoy pourrait mieux répondre que moi à ce sujet.
Dr Mankoy.
La part qui revient directement au ministère de la Santé, c'est 0,2%.
0,2% actuellement?
Oui.
Ça s'est toujours passé ainsi ou bien c'est seulement cette année qu'on a réservé 0,2%?
Non, c'est depuis un bon bout de temps.
Mais au départ, à l'époque, c'était combien?
À l'époque de Belge, à l'époque de Belge, on réservait au secteur de la santé 12%.
12% à cette époque-là. Et ça marchait plutôt bien.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est 0,2%. Vous pensez que si on devait revoir, on devrait revenir à ces 12% ou bien aller au-delà?
À l'heure qu'il est, je pense que la répartition doit se faire équitablement en tenant compte des priorités qui sont énormes chez nous.
C'est-à-dire?
Vous allez constater que nous ne pouvons pas faire la santé correctement si nous ne soignons pas l'enseignement. Donc, la répartition suivant les priorités doit permettre aux politiciens ou aux décideurs de bien répartir. Mais je pense que si seulement on donnait au secteur de la santé, seulement les 12%, les 15%, et on fera du bien à la population.
François Mamba, tout à l'heure, il a dit que, en tout cas au sein de leur parti, l'Union pour la Nation, ils allaient créer des ressources, autrement dit mobiliser 7 milliards sur 5 ans. C'est ça, en tout cas, qu'il a dit, que moi j'ai retenu.
Oui, nous sommes pendant la période électorale, ce n'est pas à nous de porter peut-être un point de vue sur les déclarations de l'un ou de l'autre, mais ce que nous voulons dire, c'est ceci, parce que docteur Mbouba vient de le dire. C'est-à-dire quoi? Il y a les ressources humaines, il y a l'équipement, il y a l'infrastructure, mais pour faire l'équipement et l'infrastructure, il faut avoir de l'argent financier. Parce que en République démocratique du Congo, nous constatons maintenant que le contribuable congolais, dans la situation où nous nous trouvons, forme de cadre pour l'exportation. Et c'est malheureux.
Forme de cadre pour l'exportation. Oui. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, je dirais plutôt que ces cadres qui ont été formés préfèrent aller pratiquer ailleurs ce qu'ils ont appris.
Effectivement, vrai. Mais pourquoi les cadres s'expatrient? Il faut qu'on cherche la cause. Et la cause a été déterminée par l'OMS. C'est-à-dire, on ne met pas suffisamment de l'argent pour faire le social. L'argent, on s'occupe pour autre chose le social. Mais le social, c'est quoi? C'est l'enseignement. Le social, c'est quoi? C'est la santé.
On en reparlera, docteur. On va revenir maintenant avec le deuxième intervenant, c'est-à-dire Lambert Mende, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle, qui présente lui aussi le programme de son regroupement politique en matière de santé. Suivons-le.
Eh bien, nous avons dans le programme, disons, la vision politique du président Joseph Kabila, un volet qui tente à garantir un accès universel, c'est-à-dire un accès non payant à des soins pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, pour les personnes atteintes de la tuberculose et pour des soins contre le paludisme, étant donné que c'est les trois grandes affections qui provoquent le plus de décès dans notre population. Pour le reste, nous estimons qu'il faut renforcer les moyens de la zone de santé que nous voudrions réellement ériger en unité centrale de l'organisation et de la stratégie des soins de santé en République démocratique du Congo. Et en renforçant la zone de santé, permettre à celle-ci de devenir moins dépendante des contributions des malades. On ne pourra pas faire le miracle de supprimer la contribution des malades, mais il faudra progressivement réduire celle-ci jusqu'à arriver à élargir l'accès de tous les malades aux soins que dispense un centre appelé zone de santé. En ce qui concerne la maternité, parce que nous pensons que les populations les plus vulnérables se trouvent au niveau des femmes enceintes, nous pensons que les nourrissons ont plus de droits que d'autres groupes de la population, les bébés, les enfants en bas âge, la médecine en milieu scolaire. Je pense que notre candidat tient, accorde une plus grande importance à la promotion de ces soins médicaux en milieu scolaire, du système de sécurité sociale dirigé vers les enfants en bas âge et surtout accorder la gratuité aux soins prénataux, aux soins de maternité et aux soins de la petite enfance. Il y a une augmentation des ressources affectées à la santé par l'accroissement de leur quotité dans le budget de l'État, mais nous oscillons entre 8 et 10%.
Voilà, là c'était le point de vue de Lambert Mende, qui est porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle et qui a présenté le programme de son regroupement politique en matière de santé. Vous avez tous suivi ce programme et je m'adresse directement au docteur Wivine Mbonde pour recueillir justement son point de vue à ce sujet.
Ok, je dirais comme docteur Manco il a dit bientôt, on n'a pas beaucoup de critiques à faire sur ça parce que nous sommes, comme il a dit, en période électorale et chacun a le droit de donner son point de vue. Mais ce serait l'idéal, quoi. Arriver à ce que les malades atteints de VIH, les malades tuberculeux, les malades souffrant de palu, ce serait l'idéal. Mm. Maintenant, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que dans notre pays, actuellement, nous avons un taux très élevé de mortalité infantile, c'est-à-dire des enfants de moins de 5 ans. Nous avons un taux de 213 pour 1000, donc 200 enfants qui meurent sur 1000 naissances en une année, et un taux de mortalité maternelle très élevé, notamment des femmes enceintes qui vont accoucher. Et nous pensons que si le candidat ou bien l'État doit faire quelque chose et agir sur ces enfants-là, nous avons un taux de malnutrition, un des taux de malnutrition très élevés dans le monde. Mmh. Ces enfants qui naissent aujourd'hui, qui sont malnutris et qui demain devront diriger le pays, ils auront déjà des séquelles et ils ne pourront pas assumer correctement leurs responsabilités. Mmh. Donc nous pensons que si on arrive à prendre en charge les malades VIH et à prendre en charge assez correctement les nourrissons et les femmes enceintes, ce serait une bonne chose, sauf que ça reste à voir.
Ça reste à voir, donc ça c'est votre point de vue. Et j'imagine que dans le cadre de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, vous avez déjà eu à faire quelques propositions au gouvernement.
C'est en voie de faire, mais sur le plan pratique, en fait, ce que nous faisons, c'est l'assistance plutôt à ces personnes-là. Mmh. Nous avons eu
combien de personnes exactement?
Le nombre, je ne saurais pas vous le donner, mais je sais que nous avons eu à faire des campagnes de sensibilisation sur le VIH afin qu'il y ait un changement de comportement dans les sens, notamment dans les milieux pénitentiaires, surtout à Benseke Foutu chez les jeunes, et puis dans différentes associations des jeunes, on a eu à faire des campagnes de sensibilisation. On a, au niveau de la prison de Makala, on arrive à faire des consultations gratuites grâce à nos partenaires avec les médicaments qu'ils nous donnent et tout ça. On va voir les malades qui sont en fait des consultations gratuites parce qu'on a trouvé que de ce côté-là aussi il y avait des lacunes. Et puis Il y a donc ces sensibilisations-là, il y a donc aussi des victimes de violences sur le plan physique qui sont prises en charge au niveau de notre association.
Voilà. Docteur Manco et Bachel, je reviens à vous en tant que secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins. Saviez-vous que de plus en plus de gouvernements africains ont décidé de supprimer les frais médicaux et en lieu et place, ils payent les services de santé grâce à des budgets publics de santé plus substantiels? Notamment, nous avons le cas de la Zambie qui a supprimé les frais de santé en avril de cette année. Déjà 40% des malades en plus se sont rendus dans les centres de santé. Donc ça, c'est la Zambie qui a eu à supprimer ainsi les frais de santé. Mais avec un auditeur, nous apprenons qu'au Burundi, avec 10 francs burundais, ce qui équivaut à 10 dollars américains, vous avez accès aux soins de santé pour toute l'année grâce à une mutuelle nationale, dit cet auditeur qui s'appelle Dr Richard Mukalenge depuis Kinshasa.
Oui, c'est bien. J'ai quand même un petit commentaire à faire parce que quand on parle que dans le budget actuel, on a mis à la disposition du ministère de la Santé 10%, ça commence à m'étiquer. Si c'est théoriquement, bon, j'accepte, mais pratiquement, c'est pas le cas. Et il y a un grand problème dans l'exécution du budget. Il ne faut pas qu'on reste sur les textes. Nous avions vu dans le budget des lignes de crédit pour le fonctionnement des hôpitaux. Cet argent n'a jamais été débloqué. Les lignes de crédit pour les gros équipements, malheureusement, et ou heureusement.
C'est donc vrai. On a eu à faire des dons par-ci, par-là.
Non, non. Dernièrement, vers la fin du gouvernement de transition ici, le gouvernement a fait un gros effort. On a amené quand même les gros équipements, les appareils de radiographie, les appareils de laboratoire, les tables d'opération, ainsi de suite. Mais ce n'est pas suffisant, parce que la République démocratique du Congo a à peu près 515 zones de santé. Donc, c'est énorme. Et si c'est un début comme ça, je crois que ça nous encourage. En ce qui concerne l'histoire de la mutuelle de santé,
oui.
Mais la mutuelle de santé doit être organisée. Il doit y avoir des concepteurs. Parce que quand on parle au Burundi...
Et pourquoi pas le syndicat des médecins?
Il y a la mutuelle, suivez un peu. Il y a la mutuelle nationale. C'est-à-dire qu'il faut concevoir l'organisation et que les gestionnaires soient des gens éprouvés.
Mais pourquoi pas le syndicat des médecins? Je reviens encore une fois.
Le syndicat de médecins. Si le syndicat de médecins peut organiser une mutuelle, la mutuelle ne serait que pour ces syndiqués. Ce ne serait pas la mutuelle pour toute la population.
Non, mais vous pouvez penser à la population, parce que dans bien des cas, c'est la population qui paye ses soins de santé, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous organiser pour aider cette population, c'est
dans
pas impossible.
Dans ces cas-là, il faut avoir aussi l'autorisation de gouvernement, parce que vous n'allez pas retenir l'argent des gens sans l'avis du gouvernement ou sans leur avis. Donc il y a des préalables pour créer le syndicat.
Il y a déjà des préalables, c'est vrai?
Il y a des préalables pour créer la mutuelle. Donc il faut que vous ayez l'aval des autorités et si on doit faire une mutuelle nationale, maintenant on doit travailler avec les experts du gouvernement.
Vous y avez déjà pensé?
On y a pensé pour le médecin, on n'y a pas pensé pour la population.
Il faudrait y penser aussi.
Mais au niveau du ministère de la Santé publique, il y a déjà une structure, je crois même qu'il y a toute une direction qui doit s'occuper de ce problème de mutuelle parce qu'on en a déjà fait.
Oui.
Bon, quand j'ai suivi l'honorable Lambert Mende, je dois tout simplement rappeler à la population. Vraiment, je crois que le gouvernement oublie que dans ces pays, il y avait des consultations ou des contrôles obligatoires, même dans les milieux ruraux. On suivait les cas de maladies sexuellement transmises. Donc, la femme était obligée, quand elle est enceinte, d'aller régulièrement à un centre de santé pour les consultations prénatales, mais c'était toujours à charge de l'État.
Donc, c'était gratuit.
Oui, c'était gratuit il y a quelques instants.
Maintenant, non, quelques années, il y a plusieurs années.
Quelques années, oui. Mais je crois que nous... Oui, effectivement. Parce que nous sommes arrivés vers les années 68-69 avec ça. Bon, maintenant quand on parle, il y a beaucoup d'argent. Je parle bien que de millions de dollars.
Vous êtes déjà revenu là-dessus.
Que les partenaires étrangers nous donnent pour lutter contre le VIH, pour lutter contre la tuberculose, pour faire le programme de sensibilisation, pour l'éducation sanitaire. Il y a beaucoup d'argent. Mais il faut savoir l'orienter et gérer.
Justement, peut-être qu'à travers la mutuelle de santé qui sera créée en partenariat avec le nouveau gouvernement, il y aurait peut-être des changements dans ce domaine.
Espérons bien que nous y arriverons.
Espérons surtout que vous allez y penser, parce que c'est je crois que c'est l'heure des propositions.
On ne peut pas y penser parce qu'il y a toute une direction au ministère de la Santé publique chargée de ça. Et il y avait même des experts occidentaux venant de la Belgique et de la France qui sont venus pour travailler avec les nôtres dans ce sens-là. Mais je crois que le projet est encore en veilleuse.
Voilà, on va aller bientôt à Kindu pour voir concrètement, ou plutôt Maniema, pour voir concrètement comment se fait la prise en charge médicale de la population. Vous savez qu'actuellement, la population congolaise rencontre beaucoup de problèmes pour se faire soigner. Les frais de santé coûtent cher. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas un secret. Docteur Ubi Mboué, président de la commission médicale de la ZADO, ainsi que vous, docteur Mankoy Bajoki, secrétaire exécutif provincial du SINAMED, autrement dit le syndicat national des médecins. Avant d'aller à Kindu, je vous invite plutôt à suivre l'état que nous fait Jody Kachama, donc le point qu'il nous fait dans le secteur de la santé ici à Kinshasa. Suivi.
En République démocratique du Congo, le trois quarts de la population n'a pas accès aux soins de santé d'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Le système de santé étant délabré depuis plusieurs années. D'après Médecins sans frontières, plusieurs personnes souffrent et meurent des suites de maladies infectieuses comme le paludisme qui touche beaucoup plus les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, les maladies respiratoires ainsi que les maladies diarrhéiques. Dans les régions où les soins de santé sont disponibles, la majorité de la population n'a pas les moyens de les payer à cause de la pauvreté. Ceci a favorisé le développement de l'automédication. Se basant sur quelques symptômes, plusieurs personnes se procurent des médicaments sans prescription médicale dans les pharmacies ou sur les étalages des marchés appelés zandoufars. Dans certaines formations médicales, les malades sans argent sont carrément abandonnés à eux-mêmes. D'autres arrivent à hypothéquer certains biens tels que des téléviseurs, radios, fer à repasser, réchauds et autres pour obtenir des soins de santé. Les insolvables sont séquestrés dans ces hôpitaux jusqu'à l'apurement de leurs dettes. Plusieurs hôpitaux manquent du matériel, le personnel démotivé. La réhabilitation du système de santé reste un préalable et non le moindre pour le développement de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Jody Kachama, de nous avoir fait le point sur cette question. Le secteur de la santé, vous savez que c'est un problème ici au Congo. Combien d'entre vous qui nous suivez, peut-être que vous avez été prise en otage après avoir accouché parce que vous n'avez pas été capable de payer les frais de santé, les frais d'accouchement. Nous sommes ici avec le docteur Mankoy Bajoki ainsi que le docteur Wivin Bundwe. Je m'adresse à vous encore une fois, docteur, avant de donner la parole à nos confrères de Kindu, parce que nous savons que au sein de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, peut-être que vous avez eu à assister ces femmes qui ont accouché, notamment ici à Kinshasa ou même ailleurs au Congo, parce que certaines d'entre elles n'avaient pas de quoi payer les frais de maternité.
Ok, on a eu à le faire, mais ce qui est vrai, c'est que, en fait, c'est vrai que trois quarts de la population n'a pas accès aux services de santé. Il y a un problème d'accessibilité financière, il y a un problème d'accessibilité géographique, il y a un problème d'accessibilité physique, parce que si à Kinshasa, ça semble être assez facile, on prend un taxi ou on prend un taxi bus pour arriver à l'hôpital, il y a de quoi dans la République démocratique du Congo où nous avons eu la chance d'y arriver. Pour arriver à un hôpital général de référence, il faut faire 100 km à pied et quel chemin avec des montées, des descentes et des ravins tout autour. Et on doit référer d'un centre de santé à l'hôpital général de référence, porter le malade sur un tipo et marcher à pied sous la pluie. Donc, tout ça fait que la population n'ait pas accès aux services de santé. L'hôpital peut être bien, bien équipé, mais pour arriver à l'hôpital, c'est déjà une gymnastique que le malade doit faire.
C'est ça.
Et ce qui fait que le malade, pour trouver facilement des solutions à ce problème, il préfère se faire soigner à la maison ou bien voir comment on les appelle, les tradipraticiens pour qu'ils puissent être soignés et n'attendre que quand le cas devient très grave pour être référé à l'hôpital et quand on arrive à l'hôpital.
En fait, quand
on parle de frais de santé, ce n'est pas le médecin qui fixe les frais, c'est l'hôpital et l'hôpital est une institution de l'État.
Et ces frais ne sont pas à la portée de toutes les bourses, il faut le reconnaître.
Mais le tout vient de quoi? Le tout vient du fait qu'il y a un problème social comme on l'a relevé. Le salaire de base d'une personne, le salaire de base doit comprendre les frais de santé du papa et de toute sa famille.
Vous vous battez pour
déjà,
ça?
Oui, on dénonce tout ça. Parce que on dénonce le fait que les gens soient mal payés ou sous-payés. On dénonce que les gens ne savent pas avec ce qu'ils ont comme salaire se faire soigner, parce que non seulement qu'il faut, même si les consultations étaient gratuites, mais il faut encore acheter les médicaments.
Docteur Ousmane Boubé, on reviendra à vous dans un instant. On va d'abord aller à Kindu, justement, pour voir un peu comment se fait la prise en charge médicale de la population au Maniema. On ne les a pas oubliés. On n'a pas oublié vous tous qui nous suivez à travers le pays. C'est bien aussi de réagir pour nous rendre compte de ce qui se fait dans le domaine de la santé, là où vous nous suivez. N'hésitez pas à envoyer des SMS au 081 070 2050.
Sur 103.
Et oui, nous sommes à Kindu pour parler de la prise en charge médicale de la population. Vous savez qu'au Maniema, des problèmes d'accès aux soins de santé ne manquent pas de troubler le fragile équilibre économique de nombreuses familles. Faute de moyens suffisants, le choix à faire est très difficile et très cruel. C'est généralement le cas de ces mères de famille qui ont du mal à faire bénéficier à leurs enfants des soins adéquats. Alors aujourd'hui, on va aller là-bas à Kindu, notamment dans un hôpital, pour voir concrètement comment les choses se passent. Mais d'abord, je vous invite à suivre ce son. Je vous invite à écouter ce point de vue.
Je suis responsable d'une grande famille. Avec nos revenus journaliers, on a des difficultés pour supporter le coût de vie. Des fois, les enfants malades, les autres vont en classe et à côté, la famille est enfamée. Des fois, si on supporte les malades, on sacrifie la famille et la scolarité.
Voilà, ça c'est la situation de nombreux, je dirais, de nombreux parents, pas seulement à Kindu, mais au Maniema. Combien d'entre vous n'avez pas sacrifié une partie de votre famille pour justement assister une personne malade? Ça arrive fréquemment. Alors, vous venez de l'entendre, lorsque les problèmes de santé viennent troubler le fragile équilibre économique de très de nombreuses familles congolaises, le choix à faire sont souvent difficiles et même très cruels. Alors, aujourd'hui, on va faire le point avec Mathieu Ilunga. Mathieu Ilunga, bonjour.
Bonjour Nicole.
Nous venons d'entendre cette femme qui nous a parlé des sacrifices terribles à faire lorsque la maladie se présente. Existe-t-il à Kindu, je dirais, un organisme qui tente de venir en aide aux familles qui se retrouvent pratiquement étranglées dans ce genre de situation?
Absolument Nicole. À Kindu, plusieurs organisations s'emploient à cette tâche et parmi elles, on trouve l'ONG britannique Merlin qui s'investit dans la prise en charge médicale gratuite, surtout à l'hôpital général de référence de Kindu. Merlin s'attache à aider toutes les populations nécessiteuses, mais vise aussi à l'autofinancement puisqu'elle veut préparer la situation pour le jour où les institutions d'appui quitteront le Maniema. Mais malgré ces efforts dont nous parlerons aujourd'hui, trop de personnes, et particulièrement des jeunes enfants, meurent encore dans notre région par manque d'accès aux soins de santé.
Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes, d'autres familles, qui, comme cette femme que nous venons d'entendre tout à l'heure, elle a dû se battre pour préserver la santé de ses enfants. Et parfois, j'imagine que parmi les autres que vous avez peut-être eu à rencontrer, les autres sont parfois obligés de réaliser les mêmes choix impossibles. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres?
Oui, Nicole. Comme vous l'avez souligné au départ, ces choix sont très cruels. Ici, comme ailleurs dans le pays, les enfants à bas âge sont le cible souvent privilégié de la maladie. Beaucoup de ces enfants meurent chaque jour dans le Maniema. Cela est dû aux choix mortels que doivent faire les parents démunis. Nous avons rencontré quelques responsables de famille qui ont donné des témoignages brûlants comme Sylvain Mkonkolé et une autre veuve.
Alors, je n'ai pas de revenus comme tel. Maintenant, en cas de maladie, vous voyez que c'est une casse-tête. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas facile de pouvoir soit abandonner l'enfant qui est malade ou soit de s'occuper de ceux-là qui n'ont pas à manger et abandonner celui qui est malade. Vous voyez que maintenant, c'est un problème très sérieux. Maintenant, il arrive que pendant que je suis en train de penser à manger, un enfant tombe malade, tel que vous voyez la belle-sœur qui est malade, aussi ma cadette qui est malade. On cherche à acheter les produits, vous comprendrez. Comme on ne donne pas toute une cure, on crée aussi la résistance de la maladie à l'enfant. Les malades auront aussi besoin de manger. Or, si l'enfant ne mange pas, il risque aussi de mourir. Alors, qu'est-ce qu'il pourra manger si on priorisait seulement sa santé?
Mimi Arija, niko mjane, nalibakia na watoto yangu sita, bwana alifariki. Sasa mtoto wangu mwa waine, alipata magonjo, nikenda naye kwa hospitali. Ndani ya hospitali, namna akunitunzia mtoto, sikupata namna ya pesa, mtoto yule akanikufia. Sasa nikarudia kumgini. Wale wengine nalibakia nao, watoto masomo, nakosa namna ya pesa, namna ya kula vivazi, nashindwa. Sikueneza, muda wa ile siku tatu, mtoto akanikufa. njio nikarudia paka vile nikabakia katikati, sikuona namna nyingine ya mimi kufanya ila namshukuru tu Mungu.
Voilà, nous avons suivi les témoignages de, des habitants de Kindu. Vous aussi, si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas au 081 070 2050. Mathieu Lunga, on revient à vous parce qu'on aimerait d'abord que vous nous résumiez les propos de cette dame qui a parlé en Swahili.
Exactement, Nicole. Cette femme s'appelle Aridia. Elle est veuve et mère de 6 enfants. Elle nous parle de son 4e fils qui est tombé malade. Elle l'a amené à l'hôpital général où on l'a soigné gratuitement pendant 3 jours. Mais au bout de ces 3 jours, on lui a demandé de l'argent. Elle n'en avait pas et a donc retiré son enfant de l'hôpital. Et finalement, cet enfant, malheureusement, est décédé quelques jours plus tard. Voilà ce que dit cette femme.
C'est vraiment terrible. Beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problème. Hein. Quand ils sont butés aux problèmes de frais de santé, ils n'ont pas les moyens. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est bien de réagir au 081 070 2050. Mathieu, au début de cet entretien, vous nous avez également parlé de certaines organisations qui tentent d'aider les familles dans ce genre de problème. Hein. Parmi elles, nous avons retenu l'ONG Merlin. Alors, est-ce que Merlin se prononce pour la gratuité totale des soins ou bien carrément elle arrive à assister certaines familles en ce qui concerne les soins de santé?
Nicole Ngata, au début, Merlin est arrivé à Kindu avec ses slogans. Il s'agissait d'une disposition d'urgence, cependant, et juste après les années de cœur. Mais pour aider l'hôpital général à s'autofinancer dans une perspective d'avenir, on en est venu à faire payer un modique prix pour le soin. Mais ce prix modique se transforme parfois en des sommes beaucoup plus chères pour des patients bénéficiant de peu de moyens. Malgré cela, Merlin tient à la gratuité au moins pour les trois premiers jours, comme l'explique M. Issa, l'un des responsables de qui travaille avec l'hôpital général de Kindu.
Actuellement, à l'hôpital, pour toute personne qui se présente, nous le prenons en charge les 3 premiers jours. Et cette personne ne nous donne rien. Ça veut dire que vers la porte des entrées, l'hospitalisation, les soins, les médicaments, et nous ne réclamons rien les 3 premiers jours. Mais vous allez vous rendre compte qu'en pédiatrie particulièrement, ce sont ces enfants, le pourcentage d'enfants de 0 à 5 ans sont ceux que nous recevons le plus. Donc pour ces enfants, toute maman qui a un enfant qui est malade, qui vient d'un village très éloigné, qui vient de la ville affolée, nous le prenons en charge gratuitement pendant les 3 premiers soins. Les 3 premiers jours plutôt, nous ne lui demandons rien. Maintenant, cas par cas, nous étudions est-ce que la maman, le papa peut payer les soins. Si ce n'est pas possible, il y a le comité de direction de l'hôpital où nous siégeons et nous étudions ces cas et nous laissons partir la maman et son fils. Parce que, au fait, nous sommes là ici à titre humanitaire. Je pense que déjà dans la ville, il y a beaucoup qui se plaignent. Et comme je vous l'ai dit, dans toute société, il y a des brebis galeuses. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir, il y a quelques cas que nous avions déplorés où le malade a été rançonné.
Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a quand même certaines organisations hein, là-bas à Kindu qui arrivent quand même à aider à certaines familles qui sont confrontées aux problèmes de soins médicaux. Mais est-ce que cette organisation fait des efforts particuliers, notamment pour les enfants de 0 à 5 ans, Mathieu Lunga?
Nicole, pour des gens dont le métier est de sauver des vies, comme Merlin, chaque personne malade qui arrive est importante. Et à moi, en effet, Merlin, dans son travail à l'hôpital général de Kindu, fait un effort particulier pour le plus jeune. Retrouvons encore M. Issa à l'hôpital.
Non, vous savez, dans un hôpital, surtout en pédiatrie, c'est la prise en charge immédiate qui nous permet de sauver des vies. Alors, si nous perdons notre temps à penser qu'à l'argent, que de sauver la vie, vous allez vous rendre compte que le taux de mortalité va être très élevé. Donc, c'est pour ça que nous, avec l'hôpital, et la direction de l'hôpital, nous avions ensemble décidé que, a priori, ce ne serait pas les sous. Et lorsqu'on sait que le pouvoir d'achat dans la province du Maniema est très bas, il ne faudrait pas que, parce que je suis pauvre, que je n'ai pas droit à la santé. Non, pour nous, tout le monde a droit à la santé, qu'on soit pauvre ou pas. Donc, raison pour laquelle nous, on ne fait pas une différence entre un enfant de moins de 5 ans, un adulte, une vieille personne. On prend tout le monde en charge, mais on est plus actif vers cette tranche d'âge que vous nous présentez, les enfants de moins de 5 ans, et puis surtout les femmes enceintes. Là, nous ne lésinons pas sur nos efforts, on fait le maximum pour que toutes ces personnes aient satisfaction quand ils rentrent et jusqu'à la sortie. Mais ce n'est pas une œuvre facile, il faudrait le reconnaître. Nous travaillons avec des êtres humains et il faudrait toujours en train de suivre est-ce que le malade a eu les médicaments, est-ce que le malade a reçu les soins, est-ce que le malade n'a pas été rançonné. Et c'est un peu difficile dans le monde où nous sommes aujourd'hui.
C'est vraiment difficile de donner les soins à tout le monde et surtout à ceux-là qui n'ont pas suffisamment de moyens. Dans bien des cas, on critique le serment d'Hippocrate que font les médecins parce qu'on estime que les médecins devraient d'abord soigner les malades et puis ensuite demander les frais, n'est-ce pas? Mathieu, on va peut-être terminer par ça, hein, n'est-ce pas?
Oui, en effet, Nicole, cette situation n'évoluera que si l'État prend ses responsabilités en assurant la population du pays des soins, des santé accessibles à tous. C'est ce que les patients, mais aussi tous les professionnels de la santé appellent de leurs vœux.
Merci beaucoup.
Nicole.
Merci beaucoup, Mathieu Ilunga. On va donc donner la parole maintenant à notre invité qui est à Kindu. C'est le docteur Napoléon Oloua. Il est infirmier et assistant des programmes de Merlin à l'hôpital général de Kindu, afin qu'il nous éclaire davantage sur cette question. Merci encore et à la prochaine.
Merci, Nicole Ngaka. Merci.
Kukati. Pour que la paix ne soit pas qu'une belle.
Les frais de santé gratuits pour tout le monde, pour tout Congolais, c'est ça en tout cas que les Congolais aimeraient qu'on puisse arriver certainement d'ici l'an 2008, peut-être l'an 2009 et davantage. Certainement qu'avec vos réactions on aura d'autres points de vue là-dessus, mais j'aimerais inviter tous ceux qui n'ont pas encore eu à intervenir dans cette émission, soyez les bienvenus, intervenez, réagissez au 081 070 2050. Nous allons donc donner la parole maintenant à Napoléon Loua. Nous gardons nos deux invités afin qu'ils nous donnent une petite conclusion hein, juste après. Mais d'abord la parole à Napoléon Loua. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Nous avons appris que Merlin fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour arriver à assister certaines familles qui sont dans le besoin en ce qui concerne les frais de santé.
Effectivement, Merlin assiste des familles et des minis pour qu'elles puissent avoir les soins de santé. Et Merlin fait un effort dans ce sens. C'est pour cette raison, quand on arrive à l'hôpital, et Merlin est derrière pour voir si la personne va avoir ses soins de santé de qualité.
Oui.
Donc, c'est ainsi que, par exemple, la cible la plus vulnérable, à savoir les enfants, les femmes enceintes, donc quand un enfant arrive à l'hôpital, et tout de suite, donc l'enfant a droit immédiatement aux soins de santé et sans demander quoi que ce soit. Et après, s'il s'agit de factures, c'est des choses qu'on voit après.
Voilà. Mais comment ça se passe concrètement quand une personne arrive à l'hôpital? Merlin est là pour surveiller si la personne se fait soigner d'abord. Comment ça se passe concrètement?
Bon, comment ça se passe? Je voudrais préciser ici que sur place à l'hôpital, il y a une équipe de Merlin, une équipe médicale et paramédicale qui travaille en collaboration avec l'équipe de l'hôpital. Mmh. Et il y a des instructions qui sont données dans ce sens. Si une personne arrive, et surtout les cas d'urgence, en tout cas, on ne fait pas traîner la personne est vite accueillie et il va recevoir les soins. C'est après qu'on va donc voir le problème de facture. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que il y a des tarifs préférentiels qu'on a vraiment fixés. T'imagines que, par exemple, un enfant qui est hospitalisé, il doit payer 1200 francs congolais, c'est presque l'équivalent de 2,04 dollars américains. Mmh. Et donc l'enfant va recevoir des soins et après, avant de sortir, donc on va exhiber la facture et puis la famille va donner la facture, va honorer la facture.
Donc d'abord l'enfant se fait soigner parce que dans bien des cas on dit que c'est d'abord que la personne paye hein, avant que le médecin ou encore les infirmiers n'arrivent à toucher la personne malade. Mais là-bas ça ne se passe pas comme ça à l'hôpital général de Kindu.
Bon, avant tout, comme je viens de préciser, vraiment on ne voit pas l'argent.
On ne voit pas l'argent, c'est bien
de
le préciser.
D'abord c'est la personne. La personne doit d'abord être accueillie et orientée pour les soins de santé. Maintenant, c'est après, quand on se rend compte que la personne est maintenant à l'aise, donc reçoit ses médications, ses soins, parce que normalement l'hôpital fait le recouvrement des coûts. Donc on ne peut pas quand même s'en passer sans que la personne puisse payer les soins médicaux. Mais ce qui se passe, c'est que quand on trouve que même le 1200 francs congolais qu'on a fixé de façon forfaitaire, si la famille n'est pas capable de s'acquitter de cette somme, alors il y a un comité sur place qui va évaluer l'état et qui va assimiler l'état à l'indigence. Donc, tous les cas des indigents, ils ne paient pas donc, le frais à l'hôpital.
Et c'est Merlin qui s'en charge par après.
Effectivement. Donc, le Merlin prend le... C'est-à-dire tout le manque à gagner, c'est Merlin qui s'y porte. Parce que cet hôpital, comme vous le savez, donc il est appuyé par Merlin à ce qui concerne le prime du personnel, le matériel, l'approvisionnement de médicaments, la formation, ainsi de suite. Donc, je dirais presque à 100%, c'est Merlin qui prend en charge cet hôpital. Donc, et Merlin
met un
spécial sur l'accessibilité aux soins. Vraiment, parce que cela est un peu l'objectif, la priorité pour Merlin. Donc, l'accessibilité des soins à tout le monde. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes d'indigence, la personne n'est pas capable de payer les soins. Merlin intervient comme on est tous à l'hôpital pour que la personne puisse vraiment quitter l'hôpital sans lui demander quoi que ce soit.
Merci beaucoup Napoléon Loua de nous avoir donné tous ces détails. Hein. En tout cas, à la prochaine. Qui sait, peut-être que Merlin pourra faire davantage partout ailleurs au Congo. Merci encore et à la prochaine.
Ok, merci.
Voilà, on revient dans ce studio afin maintenant de conclure avec nos invités. Vous savez que nous sommes également là avec le docteur Wivin Mouboué. Juste un mot de la fin avant qu'on se sépare, après avoir suivi le point de vue de notre confrère ainsi que de cet infirmier de Merlin.
Ok, merci. Nous avons personnellement eu la chance d'être allés à Kindu et d'avoir visité l'hôpital général, d'avoir travaillé même avec le docteur Issa que nous saluons en passant. Mais comme monsieur l'intervenant qui vient de prendre fin l'a dit à la fin, Merlin prend à 100% en charge l'hôpital. Ça veut dire que Merlin a pris aussi le rôle de l'État. Et comme les primes sont payées, les avantages, le personnel a tous les avantages sociaux. Quand déjà quelqu'un ne sait même pas payer 1200 francs pour ses soins de santé, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et si Merlin le fait, je pense qu'on lui dit merci, mais je crois que c'est pas une situation qu'on doit laisser perdurer pendant longtemps.
Docteur Manko et Badjok, juste quelques secondes pour le mot de la fin.
Oh là là. Mais ce qu'on suit là, c'est que ça c'est la désarticulation de l'organisation de services de soins. Ce ne sont pas des intervenants occasionnels, ce ne sont pas des dons qui doivent faire la sécurité sanitaire de la population. Donc l'État doit prendre en charge les ressources humaines, l'équipement et les structures.
Ça va venir peut-être dans les années à venir. Qui sait en 2007 ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, hein, Dr. Wivin, ainsi que vous, Dr. Manko et Badjoki. À la prochaine. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont assistés pour la réussite de cette émission. Retenez que demain, on se retrouve pour une autre Okapi Action. Au micro, c'était Nicole Ndaka. À demain.